Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, Jésus a dit qu'il y avait un commandement parmi la multitude des ordonnances qui ont été faites, qui était le premier, qui était le plus grand. Et si Jésus dit que c'est le premier et que c'est le plus grand, les chrétiens, en premier, doivent y réfléchir. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si le Seigneur a pris le temps de nous enseigner ces choses, si le Saint-Esprit a voulu que cette histoire soit consignée dans sa parole, c'est que ce commandement, qui est le premier et qui est le plus grand, doit être analysé. Nous devons l'examiner. La Bible dit « examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Dimanche, mardi, j'ai prêché sur ce verset et j'ai terminé en disant que c'est une grâce de réfléchir à ces choses. Je ne sais pas si vous y réfléchissez, mais réfléchir à ces choses est une grâce. D'ailleurs, si vous lisez les Proverbes 2 et 3, vous vérifierez que réfléchir est véritablement une bénédiction sur les choses spirituelles. On va résumer ce que l'on a vu mardi soir, à savoir ce que renferme un petit peu ce commandement. Pourquoi Jésus dit-il que c'est le premier et que c'est le plus grand ? Eh bien, par rapport déjà à son ancienneté. Lorsque Dieu a créé les êtres, que ce soit les anges, les archanges ou les êtres humains, lorsque Dieu a créé, il a mis ce principe dans le cœur des hommes. C'était même pas la peine que la loi soit écrite. Lorsque les anges ont été créés, je pense que la première des choses qu'ils ont dû faire, c'est de glorifier Dieu de tout leur cœur et de l'aimer. Vous croyez que Dieu a créé les anges avec cette faculté de suite d'aimer Dieu de tout leur cœur ? Bien sûr. C'est le premier parce qu'il a existé avant l'Exode, avant la dictée des 10 commandements. C'est le plus grand par son ancienneté. Il demeure après que le monde sera passé. Après que les Écritures n'auront plus lieu d'être, puisque nous serons parfaits dans le ciel, est-ce qu'il demeurera d'après vous ce commandement ? Est-ce que nous continuerons à aimer Dieu de tout notre cœur ? Bien sûr, avec encore plus de facilité. Donc c'est le premier par son ancienneté, c'est le premier par son importance. C'est le premier par son importance. Bien sûr qu'il y a beaucoup de commandements qui s'adressent à la façon dont nous devons nous comporter entre nous. Si vous lisez le Sermon sur la montagne, vous verrez combien de commandements s'adressent à la façon dont nous devons nous comporter les uns vis-à-vis des autres. Vous l'avez lu, le Sermon sur la montagne, Jésus a beaucoup insisté. D'ailleurs, il y en a qui ont dit que l'Évangile était un livre de morale. Vous voyez, pour vous dire s'ils ont tout compris, que c'était un livre uniquement de rapport des hommes vis-à-vis des autres hommes. Mais ce n'est pas vrai. En tous les cas, c'est certain, il y a l'importance de respecter tous les commandements. On ne va pas en citer quelques-uns. Les autres commandements nous relient entre eux. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Déjà, vous voyez, ce sont des commandements que nous connaissons bien, mais ils ne sont rien à côté de ce premier commandement où il nous est d'abord demandé d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. On réfléchit souvent aux commandements. Comment vous les lisez-vous, les commandements ? Parce qu'il y en a des commandements dans l'Écriture, non ? Vous les lisez, vous les méditez. On vous dit, bien celui-ci, que je dois me soumettre aux autorités. Je dois obéir à mon patron. Est-ce que ce sont des commandements qui sont enseignés ? Oui, bon, on peut réfléchir aux commandements. Je pourrais en citer quelques-uns qui peut-être mettraient, hélas, certains mal à l'aise. Mais c'est quand même un commandement qu'on n'a pas à réfléchir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ça nécessite pour vous que vous l'analysiez, que vous disiez oui ? Est-ce que ce commandement est important ? Pourquoi Jésus a dit que c'est le plus grand ? D'emblée, une fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous savons pertinemment, de toute façon Jésus l'a dit, que c'est le premier et que c'est le plus grand. C'est le premier par sa justice. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est facile à comprendre que nous devons aimer Dieu. C'est facile, c'est juste. Quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain, celui qui se moque de nous, on a chanté. Il y a des gens qui nous insultent parce qu'on est chrétien. Et pourtant, il y a des commandements qui nous demandent tu aimeras ton ennemi. Est-ce que c'est écrit ? Bon, ça peut se discuter, ça. On peut dire oui, d'accord, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez. J'ai lu ce verset. Il y a des commandements qui nécessitent qu'on ait une explication parce qu'on peut percevoir une forme d'injustice. Il n'y a aucune injustice. Mais l'homme peut en percevoir parce qu'il ne le comprend pas. Mais celui-ci est profondément juste. Personne ne peut se permettre de contester. Si vous vous autorisez à contester ce commandement, vous avez un gros problème au niveau de votre conversion. Laissez-moi vous dire que c'est un commandement qui est profondément juste. Aimer Dieu de tout son cœur. Ça ne doit pas nous poser de problèmes. Je ne sais pas comment vous avez chanté les cantiques que notre frère Jérôme nous a présentés. Je crois qu'on a pu le faire justement parce que nous avons compris la vérité de ce commandement. Celui qui conteste ce commandement a perdu la conscience. Je vous le dis, on ne va pas tourner autour du pot. Si vous êtes de ceux qui contestez ce commandement, oui, d'accord, il faut bien aimer Dieu, mais, alors écoutez-moi, je vous le dis, ou vous êtes aveugle, profondément aveugle, ou vous avez perdu la conscience. Parce que c'est un commandement qui ne nécessite aucune contestation. Vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ? Hein ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oui, il y a des commandements qui nécessitent que vous soyez enseignés. D'ailleurs, Jésus l'a fait. Le sermon sur la montagne est une prêche du Seigneur Jésus pour nous expliquer comment comprendre certaines choses dans l'Écriture. C'est le plus grand parce qu'il renferme tous les autres. Vous pouvez réfléchir comme vous le voudrez, quel que soit le commandement que Dieu peut nous assigner, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, et même le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements, en vérité, ne peuvent se mettre en place de manière spirituelle que si nous aimons Dieu de tout notre cœur. Parce que je ne sais pas comment vous faites, mais aimer vraiment notre prochain sans aimer Dieu, ça va être très difficile. Vous le savez, déjà que quand on aime Dieu, il nous est parfois difficile de faire certaines choses parce que c'est notre vie charnelle, humaine, terrestre qui prend le relais. C'est pour ça que nous ne nous rendons pas compte à quel point parfois il est difficile de faire certaines choses. Eh bien parce que sans nous en rendre compte, nous avons transgressé involontairement ce commandement « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme ». Si Jésus le dit, c'est important. Jésus a pris le soin de nous le dire, c'est le plus grand. Les gens qui étaient là pour l'éprouver, des gens très religieux qui connaissaient la Torah mieux que vous et moi, croyez-moi, ils voulaient l'éprouver. Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que de vouloir contester avec Dieu. D'ailleurs, je le lisais encore hier dans Ésaïe, malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Moi, je ne comprends pas tout, et ça m'est égal. Je ne comprends pas mes épreuves parfois, mais je sais que Dieu les utilise pour me perfectionner. Et ainsi de suite. Mais, mes frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais. Tous ses commandements sont justes et intelligents. Ça, j'espère que vous en êtes profondément d'accord. Si Jésus dit que c'est le plus grand et que c'est le premier, c'est que c'est une chose sérieuse. C'est un devoir d'y réfléchir. C'est pour ça que nous nous y appliquons ce matin pendant ce culte. Je crois que bien des chrétiens sont passés à côté de la volonté de Dieu ou de certains aspects de la volonté de Dieu pour la simple unique raison qu'ils ne se sont pas appliqués à réfléchir à ce commandement. C'est important, quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que hier j'ai reçu un courrier, hier avant-hier, par rapport à mon mi-temps thérapeutique, par rapport à mon AVC et tout ça, la neurologue qui m'a envoyé un courrier pour la médecine, du travail, etc. Bon, c'est quand même important, je l'ai lu deux fois. Je l'ai lu deux fois, pourquoi ? Parce que les termes, je ne les comprenais pas tous, mais quand quelque chose est important, on le lit une fois, deux fois, trois fois, oui ou non ? C'est pas vrai ? Là c'est un commandement qui concerne notre éternité, qui concerne notre vie spirituelle, peut-être que vous ne l'avez pas fait. Mais cette semaine, je me suis dit, mais il te faut expliquer davantage ce commandement aux croyants, car je crois que c'est un devoir. Puisque Jésus a dit que c'était le plus grand, il faut que nous y réfléchissions. Je suis persuadé que c'est la transgression de ce commandement qui a fait que beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la perdition éternelle parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce commandement. Ils l'ont peut-être lu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, voilà, avec beaucoup de légèreté. Mais le seul fait d'y réfléchir, faites ce que moi j'ai fait cette semaine, réfléchissez-y toute la semaine et vous verrez que ça vous pousse à vous préparer à rencontrer le Seigneur. Oui, je suis convaincu que des multitudes sont en enfer pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas pris au sérieux ce commandement de l'Écriture. Il concerne tous les hommes, tous, qui que vous soyez, jeune ou vieux, riche ou pauvre, inconnu, notable, je ne sais rien, qui que vous soyez, ce commandement s'adresse à vous. Dieu vous l'adresse. Il y a des commandements, vous pouvez dire, oui, mais ça s'adresse aux pasteurs, c'est dans les épîtres pastorales, ça s'adresse vraiment aux chrétiens parce qu'ils sont convertis. Oui, et vous avez raison. Mais ce commandement, il s'adresse à tous les hommes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Cet auditoire, que je connais bien depuis 15 ans, est composé essentiellement de croyants. Je pense que vous aimez le Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous aimez le Seigneur. Mais, en tant que pasteur, si je me dois de parler aux chrétiens, aux croyants, je me dois également de parler à ceux qui délibérément ont choisi de ne pas s'occuper de leur âme. Il arrive très 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 régulièrement que dans l'assemblée viennent des hommes et des femmes qui viennent depuis longtemps, qui accompagnent des chrétiens, qui sont là, qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas pris le soin, bien sûr, de méditer ce commandement. Ils croient en Dieu parce qu'ils ont du mal à ne pas y croire, mais ils continuent à le mépriser parce qu'ils ne l'aiment pas. Et on peut croire en Dieu et ne pas l'aimer. Je pense que ça ne nécessite pas une grosse explication. Il y a des gens qui ignorent Dieu, ils viennent à l'église, ils veulent bien de temps en temps une bénédiction, ils se disent quand même, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Vous savez, il y a des gens qui continuent à raisonner comme ça, ça fait pitié. Vous leur parlez de Dieu, ils vous diront, oui, je crois, mais je ne sais pas. Vous voyez, c'est une forme de mépris de ce commandement. Car je suis persuadé que n'importe quel homme qui prend le temps de dire ce commandement est sérieux, je vais y réfléchir, je crois que ça ne l'amènera pas à ricaner des choses de Dieu. Parce qu'on en voit des gens qui ricanent. On en voit des gens. Il y a des gens qui rentrent dans des lieux de culte et qui prennent les choses de Dieu très 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 à la légère. Et même des chrétiens. Le fruit qu'ils portent prouve, hélas, ce que je suis en train d'avancer. Combien de gens ricanent des choses de Dieu? Vous le savez. Vous témoignez à des gens? Ça vous arrive de témoigner à des gens? Ça ne vous arrive pas, là où vous travaillez, de parler à des gens, ils commencent à vous regarder de la tête aux pieds comme si vous étiez un extraterrestre, parce que vous avez parlé de Jésus-Christ, et en coin de lèvres, ils ricanent. Moi, je le sais. Combien de fois ça m'est arrivé dans des enterrements, de parler de l'enlèvement de l'Église, et de voir rire, comme on dit, dans leur barbe. Ça m'est égal, parce que je sais que ces gens, ils entendent la parole de Dieu. Ils l'entendent. Mais il y a des gens qui ont choisi de ricaner. Vous, si je vous parle de l'enlèvement, je ne pense pas que ça va vous faire ricaner. Ça va vous soulever le cœur et vous préparer un grand voyage, je pense, et à vous donner beaucoup de respect pour ce que Jésus a préparé pour préserver l'Église de la colère de Dieu. Moi, quand je parle de ça, l'enlèvement, je dis merci Seigneur pour ta miséricorde. Tu vas nous épargner la colère qui est en train de venir sur la terre. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'incrédule, qui dès qu'on parle de Jésus qui est mort sur le bois de la croix, commence à se moquer de nous. Il n'y en a pas des incrédules. L'Apocalypse parle des incrédules. Leur part sera les temps ardents de feu. Voilà, des gens qui choisissent de dire « Mais moi, je ne veux pas croire. Moi, toutes ces âneries, toute cette supercherie, l'opium du peuple, enfin, tout ce qu'on a pu entendre depuis des décennies. » Voilà, les incrédules. S'ils avaient pris le temps, un peu de temps, pour réfléchir à cette seule parole de Jésus, où il dit aux hommes qui justement l'éprouvaient, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, croyez-moi, il n'en serait pas là. Le sceptique qui blasphème, vous n'avez pas vu des gens qui blasphèment? Dès qu'ils le peuvent, ils blasphèment. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils se plaisent à blasphémer. Vous n'avez pas vu ça? Des gens, parce qu'on est chrétien, se plaisent à prendre le nom du Seigneur en vain, ou à se moquer de Dieu devant nous, exprès. Voilà, c'est ce genre de gens. S'ils avaient pris le temps de réfléchir, ils n'en seraient pas là. Les athées, qui sont heureux, tout heureux de dire que Dieu n'existe pas. Oui, voilà, ils ont perdu la conscience. Bon, ils aimeraient bien que Dieu n'existe pas. Parce que les athées, ça les arrange bien de croire que Dieu n'existe pas, même s'ils se moquent de lui, même s'ils sont tout le temps en train de parler de lui. Moi, je ne vois pas pourquoi ils parlent de quelqu'un qui n'existe pas. Mais enfin, bon, passons. On ne va pas entrer dans ce débat-là. Une chose est sûre, Si les gens avaient pris le temps de réfléchir à ce commandement, ils n'en seraient pas là, croyez-moi. Et les abominables, des abominables. Est-ce que la Bible parle des abominables? Ah oui. Combien il y en a, même dans le royaume de Dieu. Quand j'ai lu cette semaine sur Internet qu'un des premiers mariages homosexuels avait été célébré dans une église protestante en Allemagne, ben ça c'est une abomination. Voilà. Si on avait pris le temps de réfléchir à ce verset, croyez-moi qu'on n'en serait pas arrivé là dans les églises du Seigneur Jésus-Christ. Quand on en arrive là, laissez-moi vous dire que ça ne va pas. Et les abominables, voilà, quand on accepte ces péchés grossiers dans l'église, dans le monde, c'est presque de bonne guerre. Mais accepter ces choses dans l'église est une abomination. Et croyez-moi, j'y reviens, si ces gens-là avaient pris le temps de méditer ce verset où Jésus s'est appliqué à nous dire que c'est le plus grand commandement, croyez-moi, on n'en serait pas là. Ceux qui savent qu'il y a un Dieu, il y en a beaucoup qui savent qu'il y a un Dieu, mais qui négligent de s'occuper de leur âme. Tous ces gens-là qui vivent dans l'indifférence des choses de Dieu, je ne sais pas comment vous avez vécu ce culte. Ne me répondez pas, mais comment vous le vivez ce culte? Comment vous l'avez vécu? Les chants, la Sainte Cène, la communion fraternelle, le fait d'avoir des frères et des sœurs, est-ce que c'est une grâce? Ou est-ce que ça vous dérange que des frères soient différents de vous, que des frères soient pauvres, que des frères soient riches, que des frères soient blonds, que des frères soient bruns, que des gens soient noirs, que des gens soient blancs? Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous plaît? Ça vous plaît? Et il faut me répondre dans un temps. Vous avez vu comment vous avez réagi quand j'ai dit Nelly? Non, Nelly. Alors là, c'est pareil, il faut réagir encore plus vite. Hein. D'accord? Ce commandement s'adresse à chacun de nous. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore baptisés, ce commandement, nous devons en faire une affaire personnelle. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de personnel. Chacun d'entre nous doit se sentir concerné et dire « Mais où j'en suis vraiment de ce plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. » Il y a des gens qui viennent depuis des mois, depuis des années, et qui n'avaient pas pris à cœur cette affaire. Vous dites, oui, je ne comprends pas. Mais prenez à cœur ce verset. Et vous allez voir que vous allez vous lever de votre chaise et dire, je veux en faire une affaire personnelle. C'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui concerne que les chrétiens qui sont engagés dans le service, qui ont peut-être le devoir de s'appliquer à connaître davantage Dieu. Oui, c'est pour les pasteurs, ils ont ce devoir de mieux connaître l'Écriture. Non, non, mieux connaître l'Écriture, c'est une chose. Aimer Dieu davantage, c'est autre chose. Les pharisiens qui se sont approchés pour faire les malins en s'approchant de Jésus pour l'éprouver connaissaient très très bien les Écritures. Mais croyez-moi qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient les Écritures, ça semble paradoxal, mais croyez-moi, ils n'aimaient pas Dieu. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui disent ce que beaucoup de gens disent. Ah ben oui, mais moi, vous savez, moi, d'accord, vous avez raison, je ne vais pas remettre en question ce que vous êtes en train de prêcher. Mais quand je vois ce chrétien-là, quand je vois le témoignage minable de ce chrétien, eh bien moi, ça ne me donne pas envie de devenir chrétien. Est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir des hypocrites dans l'Église? Ben oui, ce n'est pas un scoop. C'est clair que nous savons tous, hélas, que dans les Églises, il y a des hypocrites. Il y en a. J'invente rien. Hélas, il y en a tout le temps eu. Mais est-ce que c'est une excuse valable pour se disculper de transgresser ce commandement? Quelqu'un dit encore, « Oh, mais quand je vois ce pasteur qui fait le contraire de ce qu'il prêche, ben oui, c'est vrai, on ne peut pas mentir non plus. Combien de pasteurs, combien d'hommes religieux n'ont aucune piété et servent comme des mercenaires? Ça, c'est pas nouveau, je veux dire. Mais que peut-être vous, les ados, les enfants qui sont là dans ce lieu de culte, peut-être que vous dites, ah ben oui, mais moi quand je vois mes parents, ils viennent à l'église, et ils font toute la semaine, ils font que se disputer, vous croyez comment ça me donne envie d'être chrétien? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la stupidité. C'est de la stupidité pure et simple. Bien sûr que c'est grave de scandaliser les gens. Jésus parle des gens qui scandalisent, malheur à eux, à ceux qui commettent des objets de scandale. La Bible en parle. C'est vrai qu'on peut, par notre comportement, éloigner les gens de Dieu. Mais ça ne disculpe personne de prendre à cœur ce commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est vrai, j'en conviens, que beaucoup de chrétiens rendent un mauvais témoignage, mais que vous n'allez pas écouter la voix du diable qui vous dit « Tu vois, si c'est pour devenir comme lui, mais vous n'avez pas à devenir un hypocrite ». L'Église serait remplie d'hypocrites, que vous pouvez, vous, être quelqu'un de très honnête avec le Seigneur. Bien sûr que c'est mieux qu'il n'y ait que des gens vrais et sincères et droits et intègres qui marchent dans la grâce de Dieu. C'est clair que c'est évident que ça facilite la prospérité spirituelle d'une Église. Mais seriez-vous, iriez-vous, les jeunes, par rapport à votre travail, dans une Église qui ne serait remplie que de beaucoup de gens qui sont superficiels, vous devez vous rappeler que ce commandement vous gardera. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aucun mauvais témoignage nous dispense de mettre ce commandement de côté. Et je l'ai, moi j'ai discuté avec des rétrogrades, enfin des fils prodigues, combien m'ont dit, mais oui, mais moi quand je vois celui-ci, quand je vois ce pasteur qui a commis l'adultère, quand je vois celui-ci qui a détourné de l'argent, si c'est ça, mais oui, c'est lamentable. Et c'est vrai. C'est vrai en plus, on va pas mentir, on va pas rajouter. Mais mes frères et sœurs, quel est l'homme qui peut trouver une seule excuse, un seul prétexte pour se détourner de ce commandement? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi qui ai trouvé une prédication nouvelle. C'est Dieu qui nous rappelle ce matin quelque chose qu'il considère comme étant le plus grand. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Parce qu'en aimant Dieu de tout notre cœur, ça nous gardera de toutes ces choses qui nous font bien sûr beaucoup de peine. Bien sûr qu'on a de la peine. Quand on voit un chrétien hypocrite, quand on voit un pasteur qui chute, quand on voit tel couple qui rend un mauvais témoignage auprès de ses parents, ça nous brise le cœur quand on entend des enfants ou des ados ou des jeunes dire « Mais moi, avec tout ce que j'ai vu dans telle église, eh bien moi, je ne veux pas être chrétien. » Bien sûr que le diable a utilisé ça pour détourner beaucoup de gens de Dieu. Mais mes frères et sœurs, ce commandement demeure. Il vient de Dieu, il s'adresse à tous les êtres humains qui auront vécu au siècle des siècles, pensez à votre grand-mère, à votre arrière-grand-père, tous les hommes de la terre auront eu le devoir de réfléchir à ce commandement. Croyez-moi, c'est une affaire personnelle. En tous les cas, quelle folie de ne pas vouloir aimer Dieu parce que nous voyons autour de nous des chrétiens hypocrites. Que Dieu fasse en sorte, je ne sais pas s'il y en a dans l'église, je ne sais rien. Moi, je ne veux pas faire de l'introspection, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là, je crois, pour que nous, ensemble, nous travaillons pour sauver des âmes. Mais je sais, hélas, que ça s'est souvent vérifié. N'allez pas en enfer parce qu'un chrétien rend un mauvais témoignage. Les ados, il y en a des ados, là. Écoutez-moi bien. Vous avez peut-être beaucoup de peine parce que votre papa, votre maman ne vit pas l'évangile comme il devrait le vivre. Ça ne vous autorise pas à claquer la porte et à dire « Moi, l'évangile, ça m'est égal. Moi, quand je vois mon père, quand je vois ma mère. » Ne parlez pas comme ça. Écoutez-moi les ados. Vous faites partie de notre famille, vous êtes nos enfants et nous vous le disons. Prenez ce commandement au sérieux, il vous gardera d'aller en enfer et de trouver des excuses. Vous ne devez pas regarder à votre pasteur s'il rend un mauvais témoignage, à un chrétien s'il rend un mauvais témoignage, à vos parents s'il rend de mauvais témoignages. Vous devez écouter ce que Dieu vous dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, ce commandement s'adresse à tous les hommes. Je ne sais pas si vous aimez les ordres. Vous aimez les ordres ? J'ai déjà posé la question et j'ai eu plusieurs réponses. Est-ce que vous aimez les ordres? Les ordres qui viennent de votre Créateur. Est-ce que, bien sûr, c'est une bénédiction. J'en ai parlé mardi, je ne vais pas y revenir. Mardi, j'ai parlé du psaume 119 où David, à plusieurs reprises, disait « Mais tes ordonnances, tes ordres, réjouissent mon cœur. » Si vous prenez le temps de méditer le psaume 119, vous verrez combien David, le roi David, aimait les ordres de Dieu. Béni soit l'homme qui aime les ordres de Dieu, qui comprend que derrière est caché vers chacun une véritable bénédiction. Mais si nous refusons d'obéir déjà à ce commandement, c'est un ordre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est un ordre, oui ou non? C'est un ordre du Seigneur. Croyez-moi, ce n'est pas pour vous ennuyer. C'est pour vous bénir. Vous pouvez le comprendre. Mais si déjà vous commencez à transgresser ce commandement, vous vous mettez vous-même sous la désapprobation divine. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu va les juger. Mais en fin de compte, c'est eux qui vont se juger eux-mêmes. Parce qu'ils auront transgressé eux-mêmes la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui vous juge. C'est la parole de Dieu qui vous jugera au jour où vous passerez devant le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, c'est un simple commandement. Vous l'avez lu, combien de fois vous l'avez lu ce commandement? 5 fois? 20 fois? 30 fois? Je pense qu'on l'a souvent lu. L'évangile de Matthieu, c'est également dans l'évangile de Marc. Vraiment, on l'a lu maintes et maintes fois. Ce matin, si vous vouliez plaquer les champs à la prédication, vous verriez que c'est du copier-coller. On voit bien que tout nous exhortait à aimer Dieu de tout notre cœur, tous ces chants avec lesquels nous sommes en emphase totale. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes bien lorsque nous aimons Dieu. Nous devons l'invoquer, nous devons le prier, ça c'est sûr. Mais nous devons l'aimer. Vous savez, devant ce flot d'apostasie, parce que, enfin, je vous le savez, l'apostasie est rentrée dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer. Je vous faisais allusion tout à l'heure aux abominations dans les lieux de culte. Bon, je ne vais pas réciter la liste trop longue des choses abominables, mais vous savez que l'apostasie est déjà rentrée dans l'Église. Et je suis convaincu que le seul moyen d'empêcher l'apostasie de rentrer dans l'Église, c'est de prendre au sérieux ce commandement. Et je vais aimer Dieu. Je vais l'aimer de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force et de toute ma pensée, c'est-à-dire de toute ma vie. Je vais y réfléchir. Est-ce que j'aime Dieu? Parce que l'indifférence, c'est quelque chose de terrible. L'indifférence, même entre nous, c'est terrible quand quelqu'un dit « oui, je suis bon ». Il faut aussi faire connaître les besoins. Parce qu'il y a des gens, ils attendent qu'on devine. On en parlait hier avec un jeune homme et une jeune fille. Il y a des gens qui attendent. « Ah, mon mari, il aurait pu deviner que j'attendais ça ». Bon, écoutez, sérieusement, je pense que heureusement, nous ne sommes pas des devins. Nous ne devons pas deviner. Nous devons dire aux gens. Si vous êtes une femme, vous devez dire « voilà, cher époux, j'attends ça de toi ». N'attendez pas 10 ans, « ah, je pensais que tu aurais deviné ». Non mais, vous riez, mais je vous assure que... Mais il aurait pu deviner quand même. Il aurait pu deviner, je suis sa femme. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, vous devez le dire. Et je crois que, bon, tout ça pour parler de l'indifférence, je sors un peu du sujet. Mais l'indifférence fait que non seulement les églises ne prennent plus le temps de s'occuper des âmes des autres, c'est pour ça que je vous parlais de l'évangélisation, je crois que c'est tout à fait sain lorsque les chrétiens, ils ont à cœur l'âme des autres. Est-ce que vous avez le fardeau des âmes? Si vous n'avez pas le fardeau des âmes, si vous ne pensez pas au salut des autres, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est clair. C'est en plus, n'oubliez pas que c'est le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain, hein, comme toi-même, bon, c'est autre chose, mais ça fait partie de l'évangélisation également. Tiens, cette personne, demain, elle va être là avec vous dans le métro, peut-être que c'est bien que vous ayez un évangile à lui donner, parce qu'elle court peut-être à tel point pour se suicider, mais Dieu va la mettre sur votre chemin. Est-ce que c'est possible? Mais si on n'a pas le fardeau des âmes, alors le problème, c'est... Et beaucoup plus grave, c'est que non seulement beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas le fardeau des âmes, mais ils n'ont pas le fardeau de leur propre âme. Des gens ne s'occupent même plus de leur âme. Je le vois, moi, quand je discute avec des gens, mais est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez? Oh, j'ai pas le temps. Mais c'est la preuve, alors les excuses, les prétextes, bon, je sais même pas s'ils font parler, mais c'est bien la preuve que les gens ne s'occupent plus de leur âme. Et je ne sais pas si vous vous occupez de votre âme. Vous avez dit, oui, monsieur, aussi, je suis là ce matin, si je m'occupe de mon âme. Ce n'est pas du tout sûr. En ce moment, on entend parler de la nuit des étoiles. Si vous avez écouté les informations, on parle régulièrement la nuit des étoiles, parce qu'aux environs du 15 août, il y a ces fameuses étoiles filantes qui réjouissent les yeux des astronomes. Alors c'est vrai que certains, moi j'ai entendu des propos qui me permettent d'étayer ma prédication. Oh, quand je vois la création, c'est merveilleux. J'admire la création. Je suis persuadé que ce matin, il y a des gens, à la place d'aller dans un lieu de culte, ils ont été faire du vélo ou dans des chemins pédestres, etc., se balader, et ils admirent la création. Mais Dieu n'a pas dit « tu admireras le Créateur ». Et il y a des gens qui se contentent de ça, d'admirer la création. « Oh, c'est merveilleux, quand je regarde la grande ours et que je vois l'étoile Pégase, etc. » Enfin bon, moi j'aime l'astronomie, j'aime. L'astronomie, ne dites pas l'astrologie, parce que quelqu'un un jour a dit « Monsieur Gault, il aime l'astrologie ». J'ai dit l'astronomie. C'est pour vous dire que les gens qui écoutent plus les annonces que les prédications. Mais mes frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas d'admirer la création, bien sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Une fois que quelqu'un est chrétien, il est presque en extase devant la création, devant le parfum de chaque fleur, devant le cri de chaque oiseau, etc., ou le chant de chaque oiseau, vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu ne nous demande pas d'admirer la création. Et il y a des gens qui se contentent de cela. Peut-être qu'il y en aurait parmi nous, des gens qui admirent la création. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au culte, moi le dimanche je vais me promener dans les bois, je vais sentir les champignons. Je l'ai entendu. Dieu ne vous demande pas d'admirer les champignons. C'est beau d'admirer les champignons, surtout ceux qui sont bons. Mais laissez-moi vous dire que Dieu demande plus que de l'admirer. Dieu demande de l'aimer. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Écoutez, il y a une très très grande différence. Dieu dit, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas Gérard Gou. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Oui, c'est beau d'admirer les astres, mais c'est autre chose, croyez-moi, d'aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, c'est plus qu'aller à l'église le dimanche matin. On peut aller à l'église le dimanche parce qu'on a pris l'habitude d'y aller, parce qu'on a dit qu'il faut y aller. Si tu vas à l'église, ben tu sais, c'est bien, tu démontres ta fidélité. Vous voyez, il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches, ils aiment Dieu. Est-ce que vous croyez que parce qu'on va à l'église, on aime Dieu? Mais non, ça devrait être sans aucun doute la même chose. Mais Dieu ne nous dit pas « va à l'église tous les dimanches », quoique c'est quelque chose de profondément biblique. Mais Dieu dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Quelqu'un peut me dire « oui, mais moi je m'occupe des enfants, de l'église, je fais mon culte en me levant. Est-ce que parce que je fais mon culte en me levant, j'aime Dieu de tout mon cœur ?» Normalement, oui, ça devrait être sans problème. Mais croyez-moi, moi je connais des hommes, et là, ça me brise le cœur, ils font tous les jours leur culte, et croyez-moi, ce n'est pas pour ça qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent à l'œuvre de Dieu. Jérôme l'a très bien expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a ramassé les offrandes, voilà, ça doit être le prolongement de notre consécration. Voilà, je vais à l'église, je fais mon culte tous les matins, je donne à l'œuvre de Dieu. Oui, mais la question, ce n'est pas ça. La question, c'est est-ce que tu aimes Dieu ? Parce qu'on peut servir Dieu comme un mercenaire. Personne ne sait si je sers Dieu comme un mercenaire ou si je sers Dieu comme un fils. Qui le sait? Tout à l'heure, on a chanté que Dieu regarde au cœur. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Comment je sers Dieu? Peut-être que je le sers parce que j'ai besoin d'un salaire. Alors, je sers Dieu comme un mercenaire. Est-ce qu'un mercenaire peut faire très bien son travail? Ah oui, mais Dieu, justement, il ne nous dit pas, il ne faut pas l'aimer comme un mercenaire. Il faut l'aimer comme un fils. Est-ce que vous êtes heureux que Dieu soit votre Père? Et voilà. Et c'est ça. Voyez, si le culte est ennuyeux, moi j'ai entendu, ouais, on va aller au culte, ben j'espère qu'on va trouver une église. Okay, on va. Certains, si vous allez au culte comme des gens vont à l'échafaud, c'est sûr que ça fait. On peut remettre en question si vous avez pris le temps de réfléchir à ce premier commandement. C'est une question que Dieu nous pose. Parce que croyez-moi, je suis avec vous. Est-ce que tu m'admires? Est-ce que tu me sers? Non. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? C'est ça que Jésus a catalogué comme étant le plus grand commandement. Les prières, est-ce que c'est bien la prière? Est-ce que vous aimez la prière? La prière, c'est un grand sujet parce que des fois, c'est un combat. Des fois, c'est un rafraîchissement. Je le résume, c'est vrai. Des fois, quand même, la prière, c'est un temps béni où on se retrouve, on a besoin de se rafraîchir. Mais parfois, vraiment, il faut l'armure et combattre parce qu'il y a des. Vous voyez, en ce moment, que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient arrivés en premier, combien c'est important de prier pour nos frères et sœurs en Égypte. Vous avez vu ce qui se passe, comment on détruit les églises. Croyez-moi, sous le couvert de tous ces soulèvements, il y a plus un combat spirituel qu'autre chose. Je pense que la prière, ça peut être un combat. Mais mes frères et sœurs, je crois que la prière, ça doit quand même travailler de sorte que ça soit un plaisir de parler à Dieu et de le laisser nous parler par sa parole. Croyez-moi, ça doit être une bénédiction. Certains prient parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je suis chrétien, donc je suis obligé de prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, je suis chrétien, donc si je veux rester chrétien, il faut que je prie tous les jours. Mais ce n'est pas ça que Dieu est en train de nous dire ce matin. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que, est-ce que tu m'aimes? Oui, tu pries tous les jours, je le sais. Mais est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Comment notre cœur bat-il? Comment votre cœur était-il lorsque vous avez entendu Ésaïe 53 ce matin? Comment avez-vous réagi? Vous avez dit, oh, ça fait la cinquième fois que j'entends Ésaïe 53. Oh, il aurait pu prendre notre texte. Ou est-ce que vous étiez touché lorsque vous avez réentendu pour la énième fois Ésaïe 53? Est-ce que ça a été une bénédiction? Ça, c'est révélateur. C'est révélateur. Et c'est comme quand on aime les bonnes choses. Il y a des gens qui aiment la glace, le chocolat, etc. Ils ne vont pas dire, oh non, j'en ai mangé 15 fois, je ne veux plus manger. Bien au contraire, quand on aime quelque chose, on a du plaisir à en reprendre. Eh bien, mes frères et sœurs, quand on en arrive à être ennuyé par la prédication, croyez-moi que c'est un mauvais signe. Comment votre cœur réagit lorsqu'on vous reparle du calvaire? Combien de fois avez-vous entendu des prédications sur la mort de Jésus sur la croix? Combien de fois? Est-ce que ça vous aurait gêné ce matin que je fasse une prédication sur la prédication de la croix? Est-ce que ça vous aurait gêné ou est-ce que ça vous aurait touché? Est-ce que franchement vous auriez apprécié? Eh bien oui. Moi je pense que... Moi ça ne me gêne pas si tous les dimanches j'entendais une prédication sur le beau message de Jésus-Christ mourant pour nos péchés au calvaire. Comment votre cœur bat lorsque Dieu nous rappelle qu'il ne nous lasse pas de nous pardonner? Ça vous plaît pas vous que Dieu vous pardonne continuellement? Ça vous émeut toujours que Dieu pardonne? vous en avez besoin du pardon comme moi? Vous n'avez pas de mauvaises pensées? Vous n'avez pas eu de mauvais propos? Ça ne vous réjouit pas toujours? Votre cœur bat-il lorsqu'on vous parle de pardon? Eh bien, j'espère que oui. Mais la question, elle est là. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Par rapport à ce que nous faisons. Parce que nous faisons certaines choses pour Dieu. Vous voyez, moi, je suis prédicateur. Un autre va s'occuper de la musique ou de l'école du dimanche, etc. Mais par rapport à ce que nous faisons, voilà, ne dites pas, voilà, je fais ci, ou je fais là, ou je visite les malades, ou je donne beaucoup. Mais si vous donnez beaucoup, béni soit Dieu, si Dieu vous a permis d'avoir les finances. C'est bien. Mais la question, c'est une question sérieuse. Quelque chose de grand ne peut pas faire autrement que d'amener une question sérieuse et une question profonde. Aimes-tu Dieu ? Aimes-tu Dieu ? Aimes-tu Dieu ? Vraiment, mon frère, ma sœur. Ce matin, vous êtes venu, je ne sais pas quelle journée, le 18 août, je crois. Est-ce que vous pouvez dire, mais oui, au-delà de ma présence, au-delà de mon offrande, au-delà de mon service, au-delà de ce que je suis, au-delà de ce que j'ai appris, vraiment, je peux dire que j'aime Dieu. Parce qu'on peut fixer l'amour que l'on donne à Dieu. Il y a des gens, ils ont fixé l'amour qu'ils devaient donner à leur frère. Il y a des gens qui ont fixé l'amour. Moi, ma femme, je l'aime, mais bon, c'est ma femme. Je veux dire, voilà, moi, j'ai autre chose à faire. Oui, il y a des gens, bon, ils s'expriment très bien. Ils expriment la façon dont ils doivent aimer les gens. Moi, les frères, c'est bien, mais moi, pas trop de communion fraternelle, pas trop de simagré. Moi, plus je suis seul, mieux je me porte. Oui, on voit de suite, par des propos très intelligents, comment les gens ont fixé la communion fraternelle. On pourrait évaluer les propos. Moi, je crois que si c'est pas trop grave d'évaluer certains comportements, mais celui-là, est-ce qu'on a le droit de le limiter? Non. C'est un commandement qui ne se discute pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je dois aimer mon prochain. Bon, je dois aimer mon prochain. Est-ce que c'est facile d'aimer son prochain? Lucas, ton prochain, c'est moi. Est-ce que c'est facile d'aimer ton prochain? Est-ce que c'est toujours facile d'aimer votre prochain? Bon, je dois aimer mon prochain. On ne va pas discuter, c'est le deuxième commandement qui suit donc ce premier. Ça ne fait aucun doute que je dois aimer mon prochain. Mais ça ne fait aucun doute encore que je dois aimer Dieu plus encore. Parce que s'il nous a dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur », il ne nous a jamais demandé d'aimer notre prochain, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Vous comprenez ma pensée? D'accord? Est-ce qu'un mari doit aimer sa femme? Est-ce qu'une femme doit aimer son mari? Est-ce qu'un enfant doit aimer ses parents? Est-ce qu'un enfant doit aimer ses parents? Est-ce qu'un enfant doit respecter ceux qui lui ont donné la vie? Les enfants, il y en a ici des enfants? Des adolescents? Des jeunes, il y en a? Est-ce que vous savez que vous devez aimer vos parents? Mais jamais, je parle aux maris, je parle aux épouses, je parle aux enfants, jamais, jamais, Dieu nous demande, même si nous avons honte de ne pas avoir suffisamment aimé notre conjoint, parce que je pense que vous et moi, nous aimerions aimer davantage notre conjoint, j'aimerais aimer davantage ma femme, je pense que ma femme aimerait aimer davantage son mari, etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons-ils dire, oh, Seigneur, j'ai honte, j'ai pas aimé ma femme comme j'aurais dû, j'ai pas aimé mes enfants comme j'aurais dû. Mais jamais, quand même, que nous le voulions ou non, jamais il nous est demandé d'aimer notre femme, d'aimer notre mari, d'aimer nos enfants, d'aimer notre prochain, de cette façon-là. C'est-à-dire de tout notre cœur, de toute notre âme. Il n'y a que pour Dieu. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est le plus grand. C'est pas, ça n'a pas été dit pour faire de la prose. Ça a été dit parce que c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Il est certain que plus nous aimerons Dieu, c'est évident, plus nous aimerons notre prochain, plus nous aimerons Dieu, plus nous aimerons nos enfants, plus un enfant aimera ses parents, etc., etc. Mais ce sont des choses, même si on a honte de ne pas avoir suffisamment aimé, parce que quand même, celui qui n'aime pas les siens est pire qu'un païen. C'est écrit ou c'est pas écrit? Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc nous savons à combien Dieu nous demande de prendre soin de nous, les uns des autres. Mais il n'y a que pour notre Dieu où il nous est demandé de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Oui, nous devons aimer les nôtres, mais nous devons nous appliquer. Mes frères et sœurs, je suis persuadé que ce qui a malmené l'Église, c'est que nous n'avons pas pris au sérieux ce commandement. Nous avons peut-être mis l'accent sur le service. On peut mettre l'accent sur le service. La septembre va recommencer. Et on pourrait dire, tiens, il faut que vous serviez. Il y a la chorale. Il y a un petit groupe. Il faudrait qu'il y ait un plus grand groupe. Oui, oui, tout ça, c'est vrai. Il faut que des musiciens. Il faut des animateurs à l'école du dimanche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des frères pour la prédication de l'évangile. Parce qu'il y a des églises qui n'ont pas de pasteurs ou d'anciens.
etc., etc. Il faut le faire. Mais laissez-moi vous dire que ça ne peut pas supplanter ce commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Cet après-midi, voyez, moi, l'évangélisation, je pense que c'est important. C'est à chacun de dire, mais Seigneur, où est ma place? Ce n'est pas un pasteur de vous dire, faites ci, faites ça. Même si on doit vous conseiller, c'est à chacun de nous de dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la solution, elle sera possible si je me mets à aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma vie. Jusqu'où nous aimons Dieu? On a chanté jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pour toi, mourir et vivre. Il y a des frères aujourd'hui en Égypte qui vont peut-être mourir parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui en Israël, eh bien, vont peut-être être lapidés. Ça ne va pas être dit aux infos, croyez-moi, mais parce qu'on va les trouver avec une Bible sous le bras. Vous pouvez vous promener dans Toulouse avec une Bible sous le bras. On n'est pas encore arrivé à ce temps où on va vous lapider, parce que vous mettre en prison, parce que vous allez vous promener avec une Bible sous le bras. Mais où nous sommes prêts? Où sommes-nous prêts à aller pour lui? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. Que représente vraiment pour nous, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas des questions pièges, c'est des questions sérieuses, que ta volonté soit faite. Alors, qu'est-ce que ça représente pour chacun de vous? Quand vous dites à Dieu que ta volonté soit faite, est-ce que c'est une récitation d'une prière qui nous a été enseignée, ou est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Seigneur, que ta volonté soit faite. Je veux t'aimer de toute ma pensée. Nous devons aimer Dieu avec nos pensées. Vous pensez souvent au Seigneur? Vous pensez à Dieu qu'à la Sainte-Seine, que quand vous chantez des cantiques le mardi soir? Quand est-ce que vous pensez à Dieu? Ne répondez pas à haute voix, mais répondez-vous à vous-même. Quand est-ce que vous pensez à Dieu? Vous pensez à Dieu quand? Une fois, pendant le culte personnel? Vous pensez à Dieu tout le long de la journée, de tout votre cœur? Vous y pensez? Heureux êtes-vous si votre pensée s'affectionne continuellement aux choses de Dieu, si votre intelligence aime Dieu, parce que Dieu nous a donné aussi du bon sens et de l'intelligence. Il n'y a pas que du spirituel. Il n'y a pas que du spirituel. Je parlais hier avec deux jeunes d'un couple qui s'est marié. Vous voyez, ils priaient. Ils lisaient la Bible et ils priaient. Et trois mois après le mariage, même pas trois mois après le mariage, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, monsieur Go, on est en bisbis tous les deux, on ne s'entend pas, il y a un problème. Voilà, moi je veux des enfants, mon mari n'en veut pas. Et j'ai dit, mais vous n'en avez pas parlé avant le mariage? Ah non, nous on priait. Bon, je pense que Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné de l'intelligence et je pense qu'il faut réfléchir. Et aimer Dieu de toute sa pensée, c'est également notre intelligence. Parce qu'on peut aimer Dieu justement qu'avec notre intelligence. Comme ces savants, ces scientifiques, certains n'en croient en Dieu, mais ils ne se préoccuperont pas de se préparer à le rencontrer. De toute notre pensée. C'est extraordinaire quand un homme, quoi que ce soit qu'il fasse, aime Dieu et pense à Dieu. Personne ne peut savoir. Le soir quand vous vous couchez, qui c'est qui voit exactement à qui vous pensez? Est-ce qu'on peut, sous sa couette, penser à Jésus-Christ? Ça vous arrive, ça, sous votre couette, de penser à Jésus-Christ? La couette peut-être pas en ce moment, mais sous votre drap léger, est-ce que ça vous arrive en ce moment de penser à Jésus-Christ lorsque vous vous endormez? Vous pensez à lui? Heureux êtes-vous si vous aimez le Seigneur de toute votre pensée. Parce qu'il faut, comme on l'a entendu tout à l'heure dans les chants, il faut que ce que l'on dise soit en osmose avec ce que l'on pense au plus profond de notre cœur. Vous savez combien Jésus a été sévère. Vous m'honorez de la bouche, mais votre cœur est éloigné de moi. Mais voilà, il ne faut pas aimer Dieu que de toute son âme, il ne faut pas aimer Dieu que de toute sa pensée, il faut aimer Dieu de toute sa force. Voilà, Dieu nous accorde la grâce d'avoir des forces physiques. Est-ce que c'est une grâce d'avoir des forces physiques? Moi, je pense que c'est une bénédiction de pouvoir nous déplacer, de pouvoir nous mouvoir. Et si Jésus dit que ça fait partie des choses les plus grandes, aimer Dieu de toute sa force, c'est qu'il doit y avoir incontournablement un service. Je vous ferai remarquer que je parle du service après d'un état d'esprit. Mais, mes frères et sœurs, il doit y avoir un service. Et l'année va recommencer, l'année scolaire. Combien je voudrais nous encourager à faire en sorte que chacun, nous utilisions en proportion des forces physiques que nous avons, eh bien cette grâce de pouvoir le servir. Mes frères et sœurs, nous devons aimer Dieu de toute notre force. C'est sûr que ce commandement, personne depuis la chute d'Adam et Ève ne peut dire « Mais moi j'ai respecté ce commandement ». Personne, tous on a bronché et on a besoin absolument de la grâce de Dieu. On doit y tendre, on doit dire « Seigneur, aide-moi, je veux vraiment que tu m'aides parce que sans ta grâce, de toute façon, je n'y arriverai pas ». N'essayez pas par vos propres forces. Le piège serait que vous disiez « Ah bon, ce matin on a entendu un sermon qui nous encourage à aimer Dieu, alors je vais le faire, je vais y arriver, je vais me démener ». Non, mes frères et sœurs, ne l'interprétez pas de cette façon-là. Nous devons d'abord, je crois, considérer notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Comment le voyez-vous ce matin, votre Sauveur? Comment le voyez-vous? Est-ce que vous le voyez couronné? Tout à l'heure, on l'a vu, couronné d'épines. Merci Seigneur, mais Jésus n'est pas resté que couronné d'épines. Ça fait 2000 ans qu'il est assis sur son trône, couronné de gloire et d'honneur. Ce matin, comment considérez-vous le Seigneur? Comment vous prosternez-vous devant lui, même si nous restons assis, pour faciliter la bienséance dans l'église? Parce que si, un jour, on m'a dit, mais pourquoi on ne se lève pas? Ben parce que quand quelqu'un se lève, ben celui de derrière, il ne voit pas les chants qui sont projetés. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Monsieur Go, vous ne voulez pas que les gens se lèvent? Non, je pense que c'est respecter la grand-mère qui ne peut pas se lever. Voilà, c'est ça, respecter et aimer son prochain, c'est peut-être aussi cela. Mais mes frères et sœurs, comment voyez-vous le Seigneur ce matin? Comment le remerciez-vous? Comment l'admirez-vous? Comment voulez-vous le servir ce matin? Vous allez dire, bon, septembre approche, comment je vais le servir? Comment je vais le servir? Vous savez, notre vie, elle est entre ses mains. Ce matin, vous avez pris un petit déjeuner. Est-ce que c'est une grâce de Dieu? C'est une grâce de Dieu. Vous avez peut-être mis de beaux vêtements ce matin pour venir au culte. Est-ce que c'est une grâce de Dieu, même si on veut vous forcer à quitter le costume? Mais quand même, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que c'est une grâce d'avoir de beaux vêtements? Est-ce que c'est une grâce? Bien, tout est grâce. Tout à l'heure, vous allez prendre un repas. Dans une heure et demie, vous allez prendre un repas. Est-ce que vous dites, mais c'est moi qui ai bossé, moi je bosse dur, et si je mange mon pain et ma croûte, eh bien, c'est parce que moi je bosse. Moi, je pense que si vous avez du travail, c'est une grâce de Dieu. Et que c'est vous le devez à Dieu. Et vous voyez, tout est un état d'esprit. Aimer Dieu de tout son cœur. Alors, on pourrait partir dans des multitudes d'exemples, ce que je n'ai pas voulu faire. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas que notre vie est entre ses mains. Et que s'il avait voulu, il y a longtemps que nous serions dans la poussière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et nous pouvons le bénir. Parce que moi, je ne me vois pas dans une entreprise. Moi, je serais patron d'une entreprise. Un ouvrier ferait rien. Eh bien, je le virerais. Eh bien, nous avons un Dieu, lui, qui ne fait pas ça. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Sa patience est notre salut. Peut-être que vous avez été inutile dans l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous êtes baptisé depuis 3 ans, depuis 5 ans, et que vous ne faites rien. Mais bénissez Dieu qu'il n'est pas fait comme les patrons de ce monde, qui vous est viré, parce que quand quelqu'un est inutile, eh bien dans le monde, on le renvoie. Eh bien dans le royaume de Dieu, nous avons un Seigneur qui, même si vous avez été inutile jusqu'à présent, eh bien il vous appelle encore. Alléluia. Et vous pouvez dire, oh oui, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas utilisé ma force, je n'ai pas utilisé mon cœur, mes pensées, mon âme, pour servir Dieu comme ce commandement si grand me le réclame. Mais mes frères et sœurs, bénissez le Seigneur pour sa patience. Et demandons-lui de l'aide. Vous savez, c'est sa grâce qui le fera. Ce n'est pas nos forces. Ne dites pas, moi, je vais y arriver. Oh, j'ai compris ce matin. Je sais ce que je dois faire. Et je vais servir davantage. Je vais donner davantage. Non. Dites, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Par ta grâce. De la même manière que nous avons obtenu le salut par grâce, sachons très bien que nous obtiendrons cette faveur par grâce. Nous avons plein de cantiques qui nous rappellent la beauté de la grâce de Dieu. Vous voulez aimer Dieu de tout votre cœur? Eh bien, par grâce, mes frères et sœurs. Ne dites pas, je vais y arriver, je vais le faire, je vais me démener. Non, Seigneur, par ta grâce, approchez-vous du trône de la grâce. Chantez ce cantique, je veux compter sur ta grâce pour aller plus loin. Est-ce que c'est votre désir, mes frères et sœurs? On va se recueillir, si vous le voulez bien. On va se recueillir, hein? Il y a un vieux cantique qui dit « Tu es Dieu au-dessus de la terre ». Je vais demander aux musiciens de venir. Nous restons recueillis, nous restons un quart d'heure. On va prendre quelques minutes encore. C'est un beau cantique qui nous rappelle la grandeur de Dieu. Je voudrais que nous le chantions. Mais avant que nous le chantions, alors que nous restons tous recueillis, les musiciens, soyez le plus discrets possible, s'il vous plaît. Pendant que les musiciens se préparent, je voudrais que vous et moi, nous puissions humblement faire la prière que nous devons faire. Je ne peux pas la faire à votre place, vous ne pouvez pas la faire à ma place, mais c'est une prière que Dieu attend. Vous savez, quand Dieu pose des questions, il attend une réponse. C'est normal, si vous me posez une question à la sortie, « Monsieur Go, comment allez-vous ?» Vous attendez que je vous réponde, c'est la moindre des politesses. Eh bien, si Dieu pose une question, il attend que vous lui répondiez. Honnêtement, Seigneur, non, je ne t'aime pas comme je l'ai compris ce matin. Pardonne-moi, aide-moi. Et cette question qui a survolé toute la prédication, m'aimes-tu ? Répondons-y. Répondons-y et demandons-lui sa grâce. Peut-être que quelqu'un éprouve le besoin de se lever alors que nous sommes tous recueillis, dire Seigneur, tu vois, je me lève devant toi, je veux manifester cette, vraiment physiquement, je veux me manifester cette prière. Je me lève devant toi et je dis Seigneur, fais-moi grâce. Sans ta grâce, de toute façon, je n'y arriverai pas. Et même si on le faisait par notre force, ça ne servirait à rien puisque ça serait charnel. Mais Seigneur, s'il te plaît, je veux t'aimer. Je veux vraiment t'aimer. Mes forces, oui, je peux me vouvoir. Vous pourriez être paralysé. Vous pourriez être morte et dans la poussière depuis bien longtemps. Bien longtemps. Auriez-vous la meilleure santé que l'homme puisse avoir? Il y a longtemps que si Dieu n'avait pas voulu, vous seriez dans la poussière. Alors Seigneur, oui, je sais, le café que j'ai pris ce matin, les vêtements que je me suis achetés, que je porte et que j'apprécie ce matin, tout ça, c'est une grâce. Et je veux, Seigneur, considérer ces ordonnances. Je voudrais ressembler à David, l'imiter. Oui, tu es Dieu au-dessus de la terre, mais tu es plus que Dieu, tu es mon Père. Et je veux entendre lorsque je passerai devant le trône, entre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Vous n'avez pas envie d'entendre quelque chose comme ça lorsque vous passerez devant Dieu? Alors, je vais prier. Prions, priez avec moi, priez dans votre cœur, priez du bout des lèvres, priez en pensée. Mais vous savez que Dieu regarde au cœur. Vous savez comment Dieu a exaucé Anne, qui ne faisait que remuer les lèvres. Alors, prions, répondons à cette question. Seigneur Jésus, tu as pris le temps, en plus, d'avoir tout accompli au calvaire. Tu as pris le temps de nous révéler ce qui était important et ce qui l'était moins. Et du fond du cœur, nous croyons que si tu l'as dit, toi, que c'était le plus grand, c'est que c'est le plus grand. Et ensemble, nous demandons ton aide et ton secours, ta grâce, de la même manière que c'est ta grâce qui nous a sauvés et non pas nos œuvres. Nous savons vraiment que c'est par ta grâce que nous pourrons y arriver. Alors conduis-nous, Seigneur. Donne-nous cette grâce, cette ferveur d'utiliser également nos forces, puisque c'est toi qui nous les donnes, de te servir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous permet, oui, de réfléchir à ce que tu attends de nous. Merci de nous l'avoir révélé. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.